La matière ne suffit pas, il faut aussi la manière. Une bonne façon gâte, une mauvaise façon gâte tout, même la justice et la raison. Une bonne façon arrange tout, elle dore le nom, adoucit la vérité et farde même la vieillesse. Le comment fait la meilleure partie des choses et une manière agréable est habile à se gagner les cœurs. Une belle façon et charme de la vie, elle tire d'embarras avec rare bonheur. Balthazar Graciane, de son nom Balthazar Graciane y Morales, a le don, comme il le prône, d'avoir la bonne façon, celle qui arrange tout, celle qui dort et adoucit, même ce qui apparaît comme les pires horreurs. De ses principes exposés dans le héros à ceux de l'honnête homme, de son oracle manuel à ses figures de l'esprit, en une dizaine d'années, c'est un grand homme qu'il a voulu élever au moyen d'exposer, tout aussi bref qu'apparemment cynique. Mais où est alors le charme dans cette morale sans morale ? Où est donc la grandeur de l'homme ? Eh bien peut-être qu'il ne reste que du charme. Ou bien peut-être que le charme opère et rend l'être grand. Entre l'être et son apparence, entre le fond et la forme, et si Graciane proposait enfin et en fait la manière, la bonne manière d'approcher l'homme, celle qui mise sur l'honnêteté à son égard, à défaut de l'être aux autres. Pour éclairer aujourd'hui cet homme, selon Balthazar Graciane, eh bien j'ai le grand plaisir de recevoir Benito Pellegrin, professeur émérite des universités, écrivain, dramaturge, critique musical, spécialiste du baroque et de Graciane, et à qui l'on doit la présentation et la traduction des traités politiques, éthiques et esthétiques de Balthazar Graciane au Seuil. Bonjour et bienvenue à vous.
Bonjour, merci.
Donnez-moi votre main.
Non,
donnez-moi. Donnez votre main. Oh, quelle destinée. Vous n'êtes pas beau, elle est belle. Vous n'avez pas un sou. Elle est très riche. Vous êtes idiot, elle aussi. Vous êtes un valet, c'est la reine.
Wells, c'est même pas que j'existe alors.
Et si moi, par un coup de baguette magique, je supprimais en une nuit cette différence? Si je faisais de vous un prince charmant, alors à genoux devant le roi, il aime qu'on soit à plat ventre devant lui. Propre nom.
Bon, alors je ne dis pas chez le barbier, mais au barbier.
Mais non, c'est le contraire. Vous ne dites pas au barbier, mais chez le barbier. Et de même, vous ne dites pas bien le bonjour.
Mais la place m'est heureuse à vous y rencontrer.
Ça, c'est très bien. C'est très bien. Et mentir, vous savez mentir? À la cour, c'est très utile. Hmm? Dites-moi un gros mensonge que je vois, si je vous crois ou si je ne vous crois pas. Mais un gros, hein?
Eh bien, hier matin, dans les basques du costume vert de Monseigneur, j'ai trouvé 300 000 ducats.
Hein? Où sont-ils?
Sous ma paillasse.
Voleur! Voleur! Vous m'avez volé!
Non, Monseigneur, je vous ai menti.
Au lecteur, que je te désire singulier. J'entreprends de former avec un livre nain un homme géant, avec de brèves périodes des faits immortels, et en tirer un homme supérieur, c'est-à-dire un miracle de perfection, un roi, sinon par nature, par ses qualités, ce qui est un avantage. Sénèque le fit prudent, Ésope sagace, Homère belliqueux, Aristote philosophe, Tacite politique et le comte courtois. Moi, copiant quelques principes de six grands maîtres, j'essaie de l'ébaucher héros universel et prodige. Pour cela, j'ai forgé ce miroir manuel avec ses faveurs d'autrui et mes erreurs à moi. Parfois, il te flattera, il te corrigera parfois. Tu y verras ou ce que tu es déjà ou ce que tu devrais être. Tu trouveras ici non un traité de politique ni d'économie, mais une raison d'état de toi-même, une boussole pour naviguer vers l'excellence, un art d'être éminent avec à peine quelques règles de sagesse. J'écris bref parce que tu en sais long, court car je suis limité. Je ne veux pas t'arrêter davantage pour que tu ailles plus loin.
C'est ainsi Benito Pellerin que s'ouvre le tout premier livre de Balthazar Gracian. C'est le héros qui date de 1637. Et par cette adresse au lecteur que l'on vient d'entendre interprétée par Jean-Louis Jacopin, on a l'impression en fait que Balthazar Gracian s'inscrit dans un courant dont on a parlé hier, qui serait un courant anthropologique. Balthazar Gracian dit qu'il désire son lecteur singulier. Il présente aussi son ouvrage comme un manuel. Dans quelle mesure cette dimension à la fois singulière et concrète, orientée vers l'action, fait de Gracian un penseur qui va s'inscrire dans la continuité d'une anthropologie peut-être propre au siècle d'or espagnol ?
Bien là, il me semble qu'il y a une espèce d'évidence. Cette continuité, c'est qu'il ne s'adresse pas à l'abstraction, disons, si l'anthropologie peut donner sur l'âge dans l'abstraction, mais à un lecteur singulier, mais un lecteur concret. Et quand il dit singulier, il y a une plaisanterie aussi, puisque singulier, c'est quelqu'un qui sera très attaché à ses lettres, aux ventes de ses livres, qu'il veut des livres manuels, expliquons que des manuels de poche. Et j'avais d'ailleurs traduit d'abord l'oracle manuel par manuel de poche d'hier pour un mot politique d'aujourd'hui et quelques autres. Parce que ils sont d'un format, l'oracle manuel, de 24, et c'est tout petit, ça tient dans la main, c'est manuel. Et donc c'est quelque chose, il y a un pragmatisme ici, typiquement jésuitique et typiquement, dirais-je, gracianesque, de Gracian.
D'ailleurs, Gracian dit lui-même qu'il présente lui-même son traité. Je ne sais pas si on peut le présenter d'ailleurs comme un traité. Le héros fait de textes brefs, courts. C'est un livre nain qui doit élever un homme géant. Quelle est l'anthropologie finalement de Gracian ? Il s'inscrit peut-être dans la continuité du siècle d'or de Bibès et Huarte dont on a parlé hier, mais il va aussi proposer quelque chose de tout à fait original qui peut paraître d'ailleurs cynique, machiavélique. C'est ce que donne à entendre l'extrait du film de Gérard Houry qu'on a mis en parallèle avec cette adresse au lecteur, oui. La folie des grandeurs, qui révèle par l'humour la dimension proprement, effectivement, manipulatrice de ce qui est en jeu dans le héros.
Il s'adresse donc à un lecteur, mais dont il doit cultiver, auquel tous ses conseils, l'adresse des conseils, c'est que se cultiver par l'intelligence, l'ingenium. C'est pas simplement l'ingenium, encore latin de Bibes, mais déjà l'ingenio, qui est à dire par son esprit. Son esprit. Il a écrit d'ailleurs un art de l'esprit. Et c'est l'esprit, c'est la culture qui font de l'homme, le premier texte que vous avez lu, l'homme est imparfait, il est brut, c'est une brute, mais il y a un optimisme ici de la volonté, tout à fait ignatien, tout à fait jésuitique, et c'est la volonté qui permet, en appliquant la liberté sur le bon chemin, sur le discernement est essentiel, dans un monde qui serait un clair-obscur, pas tranché blanc et noir, mais clair-obscur, où il est plus difficile de trouver le bon chemin, le discernement, donc ce qui discrimine A et B, trouver le bon chemin, et à partir de là, il y a tout un chemin qu'il propose, qui serait un chemin pratiquement ascétique, c'est un exercice comme les exercices de Saint-Ignace, qui s'adresse à un homme concret, mais qui par l'ingenium, par l'intelligence, par sa volonté, va s'élever de la brute à l'idéal qui sera philosophique dans le Criticon, qui sera la personne, qui est l'aboutissement final de la vie,
par
la culture.
Alors écartons tout de suite ce préjugé qui fait de Gracian une sorte de Machiavel.
Certes, il ne cite pas Machiavel, et dans le Criticon, dans son roman allégorique dont Schopenhauer disait que c'était le plus grand livre allégorique du monde et qu'il avait tenté de traduire du moins certains passages, ce qui est prend un peu le contre-pied. C'est-à-dire qu'il ne cite dans les auteurs qu'il cite dont il prétend s'inspirer, il n'avoue pas qu'il s'inspire. Très nettement de Machiavel. Dans le Criticon, il attaque Machiavel. Mais Machiavel s'inscrit dans une problématique d'époque qui est très puissante au XVIe siècle, pendant tout le XVIe siècle. Le courant anti-machiavéliste sur le prince chrétien, que peut-il faire face au prince machiavélien qui est supposé athée ? Alors Gracian trouve que tout de même, de façon assez ingénieuse, une solution en prônant le politique Ferdinand le catholique, qui avait acheté le titre de catholique avec sa femme Isabelle, avec le premier or au pape Borgia, qui était aussi espagnol, le premier or des Amériques. Et la raison d'État qu'il propose ici à un lecteur singulier vient de la raison d'État évidemment machiavélienne, mais c'est une raison d'État qu'il met au service de n'importe qui. C'est-à-dire que dans son oracle manuel que j'appelais Art et figure du succès, c'est une démocratisation de la grande morale politique. Des armes qu'il donne à tout homme toute personne, disons, mais avec un petit P par la personne philosophique finale, qui veut réussir ici et maintenant. Car tout de même, il donne une différence très nette et qu'il propose, dans l'oracle manuel, il reprend une phrase qui en fait est de Saint Ignace. Il faut user des moyens humains, comme s'il n'y avait pas de divins, et des divins, comme s'il n'y avait pas d'humain. C'est-à-dire, il fait une séparation très nette sur l'action dans ce monde ici. C'est-à-dire, nous avons le choix de choisir entre les chemins ici et maintenant, la Terre, avec tout ce que cela suppose dans Machiavel, et le plan religieux qui serait moral, qui est complètement évacué. Mais il dit comme s'il ne dit pas qu'il existe. Donc c'est un chiasme qui peut se refermer sur le divin et l'humain, mais le choix nous appartient. Donc certainement, il part de Machiavel, mais dans ses conseils qui sont exhortatifs forcément des conseils, mais ou prohibitifs, il laisse la liberté du choix au lecteur de choisir les moyens humains ou les moyens divins. Mais en tous les cas, pour le pragmatisme de la réussite de l'action ici et maintenant sur cette terre, il faut séparer les deux plans. Le plan divin, qui est le plan moral à l'époque, et le plan terrestre où, on le sait, tout est permis depuis Machiavel.
Si les aburro, como que roncan, así. Yo me cojo enseguida y para nada eres mi sensibilidad, de verdad. Me llaman l'agrado.
On m'appelle Agrado parce que toute ma vie, ma seule préoccupation aura été de rendre la vie agréable à mes semblables. Je ne suis pas seulement agréable, je suis 1000% authentique. Voyez comme c'est beau, du sur-mesure, tout le corps humain. Ajustage des yeux, 80 000. Le nez, 200. Jeté par la fenêtre parce que 2 ans après, on m'a tordu dans l'autre sens dans une baston. Ça me donne de la personnalité, mais si j'avais su, j'y aurais jamais touché. Continuons. Nichon 2, parce qu'un seul, c'est monstrueux. 70 la pièce, mais il y a longtemps que je les ai amortis. Silicone dans...
Où ça ?
Lèvres, front, pommettes, hanches et le cul. Le litre coûte dans les 100 000, à vous de faire le compte parce que moi, je l'ai perdu. L'image des mandibules, 75 000. Épilation définitive au laser, parce que n'oublions pas que la femme descend du singe au moins autant que l'homme. 60 000 par séance, ça dépend de la barbe qu'on a. La norme, c'est de 2 à 4 séances. Mais les chanteuses folkloriques, ça peut être très long. Bon, ce que j'essaye de vous dire, c'est que ça coûte la peau des fesses d'être authentique, mesdames. Alors être radine, ça sert à rien. Pour être totalement authentique, faut être conforme à l'image qu'on a rêvée de soi-même.
Apparence et réalité. Les choses ne passent pas pour ce qu'elles sont, mais pour ce qu'elles paraissent. Rares sont ceux qui regardent à l'intérieur des choses et nombreux ceux qui se satisfont des apparences. Il ne suffit pas d'avoir raison avec un visage qui a tort. Masquer ses volontés. Les passions sont les brèches de l'âme, le savoir le plus utile est l'art de dissimuler. Qui montre son jeu risque de perdre, que l'attention du masque rivalise avec l'intention que l'on a de le démasquer, à œil de lynx, sépia et demi. Cachez vos goûts, de crainte qu'on ne les prévienne, soit en les contrariant, soit en les flattant. Trouvez le faible de chacun. C'est l'art de manœuvrer les volontés. Il consiste plus en adresse qu'en résolution. C'est l'art de savoir par où l'on doit se glisser dans chacun. Il n'y a point de volonté sans passion particulière, et il y en a d'aussi différentes que les goûts sont divers. Tous les hommes sont idolâtres. les uns de l'honneur, d'autres de goût, de l'intérêt et la plupart du plaisir. L'habileté est donc de bien connaître ces idoles de la motivation. Percer le ressort efficace de chacun, c'est comme posséder la clé de la volonté d'autrui. Il faut aller au premier mobile, qui n'est pas toujours le plus élevé. Le plus souvent, c'est le plus bas, car en ce monde, plus nombreux sont les déréglés que ceux qui se règlent. Il faut donc d'abord prévenir l'humeur, sonder ensuite la parole, et attaquer ensuite par le faible pour faire échec et mat au libre arbitre. Benito Pellegrin, je viens de lire quelques extraits mis bout à bout de Art et figure du succès de Graciane, qui date de 1647, et on y entend qu'il y promeut l'apparence, les masques, l'art de savoir se glisser en chacun, ce qui résonne tout particulièrement bien avec l'extrait du film de Pedro Almodovar, oui, qu'on a entendu, qui s'appelle donc « Tout sur ma mère » de 1999, dans lequel un travesti énumère tous les artifices auxquels il a eu recours, l'ajustage des yeux, les seins, le nez,
pommettes, la mâchoire,
les pommettes, tout cousu main.
Tout.
Tout cousu main. Et finalement, on retrouve chez Graciane et chez Almodovar cette idée que l'artifice, à défaut d'être naturel, détient peut-être plus de vérité que l'être lui-même.
Encore une fois, cela me semble une évidence. Lorsqu'il dit « de rien ne sert à avoir raison avec un visage qui a tort », c'est le délit de faciès. Bon, fort heureusement, nous sommes à la radio, on ne me voit pas, j'ai une sale gueule. Ça me désigne comme coupable pour le contrôle des papiers, car, surtout quand j'étais plus jeune, les cheveux plus longs et dorés au soleil, donc basanés. Mais je suis un petit agneau intérieurement. Alors que vais-je faire? Je vais me déguiser en agneau, mon visage. Et donc, je vais faire advenir la vérité profonde, pour faire adhérer ce que je suis profondément, et cette apparence dont le masque fait advenir la vérité, comme d'ailleurs chez Mozart dans Così fan tutte. Et par ailleurs, pour ce qui est difficile de garder son calme en écoutant l'extrait d'Almodovar, dans le Criticon, il y a une décomposition des corps. Le corps est analysé dans ses morceaux, et puis il y a des gens qui font une synthèse de morceaux de corps. Donc il y a ce corps synthétique aussi qui apparaît. Et finalement, comment reprocher à quelqu'un, supposons, pour être dans les clichés, une jeune femme qui trime toute la semaine, qui économise un peu d'argent pour sortir le soir dans une boîte en s'habillant comme une princesse? Eh bien, quand elle est dans cette boîte, c'est la princesse, c'est sa vérité intérieure. La société, la vie lui a imposé le travail terrible dans lequel elle ne se renaît pas dans ce miroir. Et elle se voit autre. Donc, le masque, il est vrai, fait advenir la vérité profonde. Le masque que l'on a choisi, bien évidemment, pas celui qu'on vous impose. Ce qui est une autre affaire.
Ce qui veut dire que chez Graciane, et ça n'est pas si évident que vous le dites, Benito Pellegrin, c'est-à-dire qu'il n'y a pas tant une dissociation entre le fond et la forme, entre l'être et l'apparence, que Graciane aurait renversé, c'est-à-dire préférer l'apparence à l'être, ce serait un renversement de la position de Platon
Bien
et de l'ontologie classique qu'on peut avoir en tête. Finalement, en fait, l'un et l'autre, c'est-à-dire le fond et la forme, ne font qu'un avec lui. Si l'on devient ce que l'on donne à voir, c'est qu'il n'y a plus de dissociation entre une intériorité et une extériorité.
Je pense que c'est un peu plus compliqué. Dans L'Honnête Homme et le Discreto, il y a un très très bel apologue, c'est sur le pan. Donc tout le monde se moque, il fait la roue. Mais la roue, c'est sa beauté, c'est fait partie aussi de ben, nous avons tendance à dire c'est l'apparence, faire la roue, c'est discréditer. Mais c'est l'auréole de l'être aussi. Nous sommes dans une philosophie modale, bien sûr. Et il dit bon, bah, d'accord, mais pour corriger le pan, il n'a qu'à regarder ses pieds qui sont des pieds de canard. Donc il y a une espèce de contre-vérité, de distance à soi. Mais finalement, nous ne pouvons témoigner que d'apparence, d'épiderme. Ben, même dans l'amour, je suis toi, tu es moi, mais je t'aime. On pourrait dire, je voudrais être toi pour me regarder. Il y a une espèce d'effet spéculaire narcissique, bien sûr, dont joue Graciane dans ce que vous avez dit, la manipulation, ou qui est le propre de la séduction. qui tendre à autrui le miroir le plus flatteur. Gratien dit d'ailleurs spécifiquement dans Le Héros, il dit pour se fermer de quelqu'un, il faut, je dirais pas singer, imiter les qualités qui nous plaisent en lui ou en elle. Et les lui renvoyer. C'est-à-dire, donc, c'est capter l'autre à son image, certainement flatté. Que tu es belle ce soir, bien sûr, en exagérant les attributs, les qualités, les beautés de l'autre. Évidemment, on le capte à sa propre image.
Mais l'on retombe dans ce que vous disiez tout à l'heure sur le masque. Il y a le masque que l'on se donne à soi-même et auquel on a envie de ressembler, comme le travesti dans Almodovar, qui devient la personne qu'elle rêvait
d'être. Un idéal
d'être,
de soi.
Un idéal de soi. Mais il y a aussi effectivement le masque qu'on nous impose, comme dans l'amour. C'est-à-dire, en fait, on feint quelqu'un que l'on n'est pas à travers le masque. Et finalement, là, on retrouve une forme de dissociation entre ce que l'on serait, une intériorité que l'on aurait soit protégée, soit ornée pour être aimée ou pour être haïe et respectée.
Oui, certainement. Mais le masque que l'on a... Bon, faut évidemment dire... simuler, dissimuler, simuler les qualités qu'on n'a pas, dissimuler les défauts que nous avons, corriger des défauts que nous avons. L'idéal serait d'en faire des qualités. C'est très difficile. C'est pas donné à tout le monde d'un défaut faire des qualités, mais au moins les corriger et quand on ne les corrige pas, donc les farder. Hein. Mais comme nous vivons toujours sous le regard des autres, nous sommes dans la société, cette monde, ce n'est pas du tout, là, les jésuites sont dans le siècle, et Gratien ici s'écrit sous le nom de son frère, hein. C'est un auteur qui se veut profane. Nous sommes dans la société, nous sommes dans un théâtre permanent, nous sommes sous le regard d'autrui, et il dit, et ce serait très intéressant, notre époque qui se gargarise de la transparence, et on y va avec tous les moyens, les médias, etc. Vivre comme devant témoin, pour n'être pas pris en défaut. Autrement dit, je prends le masque de la perfection, mais ce masque, si je vis comme devant témoin dans une maison de verre, devient permanent. Alors, c'est-à-dire que le personnage envahit la personne. Comme il y a une pièce célèbre à cette époque, un comédien de l'Antiquité qui est pris par son rôle de chrétien et qui devient chrétien à la fin, Saint Geneste. Il y a eu des pièces là-dessus, dont le masque devient permanent.
C'est ça qui est intéressant, c'est qu'avec Gratian, non seulement il y a un renversement de la position platonicienne de l'ontologie entre l'être et l'apparence, mais
absolument,
en plus, il fait de la transparence le masque pour dire que le masque que l'on décide de prendre, finalement, est plus révélateur de ce que l'on est, révèle plus de ce que l'on connaît de soi-même. C'est ça qui est intéressant aussi, c'est de faire, et qui est tout à fait actuel, comme vous l'avez souligné, c'est de dire que la transparence est peut-être plus un écran que le masque, que le maquillage, que le fait de se farder ou de se grimer.
Je crois que vous l'avez dit, là, je ne peux que souscrire à ce que vous affirmez, certainement.
Et que doit-on dire aussi de cette idée dont Gratian procède justement pour amener le lecteur à la fois cacher ce qu'il est et en même temps se révéler à travers son masque? Comment lui-même procède pour que l'homme se découvre à lui-même tout en se cachant à autrui?
C'est-à-dire, c'est toujours un travail permanent. On est dans l'intranquillité, dans l'inquiétude, c'est-à-dire on n'est pas qui est au sens étymologique. Tout bouge. Nous sommes dans un monde absolument mouvant. Et il faut, à chaque instant, dans chaque circonstance, il y a la virtuosité de l'improvisation par rapport à la situation. Les choses ne sont jamais fixées. Autrement dit, les conseils sont conseils, je disais, de simulation, dissimulation, de rôle que l'on joue, puisque tout se fait à la face du monde. Du moins pour le héros, hein. Mais il est certain que dans la morale démocratisée, de la morale aristocratique à la grande morale politique qui est démocratisée dans l'oraculum manual, c'est ça, c'est pour l'homme tout court, c'est pas pour l'homme de cour, hein. C'est complètement abusif et restrictif.
C'est-à-dire qu'il existe aussi cette traduction l'homme de cour, et vous le traduisez,
qui est un contresens total puisque il adresse à Louis XIV, alors que là l'oracle manuel, c'est l'oracle manuel naturel. C'est je crois que là, c'est le génie de Graciane. Ça n'est pas à une classe qu'il s'adresse, ça n'est pas aux politiques, comme il a fait dans son livre Le Politique, ce n'est pas aux héros, comme dans son livre, qui s'adresse, oui, à un gouvernant, il s'adresse ici à tout le monde, à celui qui veut parvenir dans son entreprise, même une concierge contre quelqu'un d'autre. Donc, ce sont les relations humaines. Et la flexibilité de ces relations humaines qui sont jamais fixes, puisque tout est vu sous diverses perspectives. Savoir donner, savoir refuser. Bon, ce sont des études de cas. C'est une casuistique d'attitudes humaines, des attitudes humaines. Savoir donner, savoir refuser, faire le bien. Faire le bien, peu, mais souvent. C'est-à-dire que ce peu ne dérangera pas beaucoup mon porte-monnaie, et tandis que le souvent, dans une vue éloignée, ce pointillisme, comme dans la peinture pointilliste, vu de loin, ça donne une généralité globale qui n'est qu'en fait qu'un choix très précis, économique et finalement très peu généreux d'avoir aidé autrui. C'est un perspectivisme permanent.
Il y a un travail avec cette idée de maquillage ou le fait de l'artifice et tout. Il y a un travail, et c'est ce que vous sous-entendez avec ce terme aussi de perspectivisme, de perspective. C'est-à-dire qu'il y a tout un travail même très concret de la matière, comme la peinture, comme le maquillage sur le corps, comme les ajouts, les implants, le fait de s'ajuster les yeux. Il y a une véritable réflexion sur la matière et sur la manière dont la manière va travailler cette matière. Alors c'est un petit peu redondant comme manière de dire, mais effectivement, il y a vraiment ce travail presque manuel de la matière qui serait manière.
C'est même exprimé, je vous avoue, je ne pourrais pas citer in extenso, la manière de la manière, c'est finalement, la manière, il y a la main, hein, vous parlez de manipulation, vous parlez de quelque chose de concret, évidemment.
De manœuvre.
Manipulation, c'est la main, on quitte pas ce domaine, la manipulation, la manœuvre, le manuel, et la manière, c'est ça vient aussi de la main. Donc la manière, c'est une espèce de raffinement du raffinement. Et ça, on le trouve dans Art et figure de l'esprit, et on le trouve aussi, puisque la vertu, dont on fait un absolu, une vertu n'est rien si elle n'est pas aimable. On dirait que nous avons l'impératif catégorique de la vérité, de la vertu, mais ça ne suffit pas, il faut la maquiller par l'amabilité, si je puis dire maquiller, bien sûr. Ou alors, la vérité, on dit que la vérité est nue. Mais la vérité nue, pour Graciane le dit dans le Criticon, sortant du puits ne serait reconnue par personne. Donc, il faut qu'elle se déguise, qu'elle se maquille, qu'elle en vérité, pour qu'elle soit tenue pour telle. Et non, il n'y a pas eu une essence de la vérité.
Yo quiero ser una chica Almodóvar, como la Maura, como Victoria Abril, un poco lista, un poquitín boba, ir con Madonna en una limusina. Yo quiero ser una chica Almodóvar, como viví, como Miguel Bosé, pasar de todo y no pasar de moda, bailar contigo el último cuplé y no parar de viajar del invierno al verano, de Madrid a New York, del abrazo al olvido, dejarte entre tinieblas escuchando un ruido de tacones lejanos. Encontrar la salida de este gris laberinto, sin pasión ni pecado, ni locura ni incesto. Tener en cada puerto un amante distinto. No gritar qué he hecho yo para merecer esto. Yo quiero ser una chica Almodóvar, como Pepi, como Lucy, como Bon. Venderle al garbo mis secretos de alcoba, ponerme luto por un matador. Yo quiero ser
Il est 10h32, vous écoutez France Culture, les nouveaux chemins de la connaissance, et c'est le deuxième moment de notre semaine espagnole sur les traces de la philosophie espagnole. Et aujourd'hui, c'est de Baltasar Gracián que nous parlons, de la philosophie du héros à l'honnête homme, en compagnie de Benito Pellegrin, professeur émérite des universités, écrivain, dramaturge, spécialiste du baroque et de Gracián, mais aussi critique musicale, et à qui l'on doit la présentation et la traduction des traités politiques, éthiques, esthétiques de Baltasar Gracián au Seuil.
N'est pas fautif qui fait la faute, mais celui qui, une fois faite, ne la sait pas farder. On doit cacher ses affections, et encore plus ses imperfections. L'erreur est humaine, à cette différence près que les sages démentent celles qu'ils ont faites, tandis que les sots commentent celles qu'ils feront. Le crédit consiste plus dans le secret que dans le fait. Et si vous êtes lubrique, ne soyez pas rubrique. Les fautes des grands hommes se remarquent plus, car ce sont des éclipses de leur rayonnement. Même à la règle absolue de l'amitié, on doit faire l'exception de ne lui pas confier ses défauts. Et même à sa chemise, l'on ne doit dire sa guise. Mais on peut se valoir ici de cette autre règle de vie qui est savoir oublier.
Je crois reconnaître votre obligé. Tout frais de votre belle province, vous devez avoir un regard aiguisé sur les ridiculités de la cour.
Il est écrit « Ne juge point et tu ne seras point jugé ».
Joignez-vous à notre partie, si le cœur vous en dit. Nous jouons à 10 sols le point.
Les boucles d'argent de mes souliers sont ma seule richesse. Mais vous pouvez les estimer de plus près, en vous courbant bien.
Que sollicitez-vous à Versailles ?
La charge d'assainir les marais de la Dombe, un paradis pour les moustiques. La vie d'un paysan n'y dépasse pas 35 ans.
Pauvres gens. Comme un malheur ne vient jamais seul, leur simple évocation provoque l'ennui.
C'est que voyez-vous, monsieur, les paysans ne nourrissent pas seulement les moustiques, ils nourrissent aussi les aristocrates.
Il est moins sot qu'il n'en a l'air.
C'est toute la différence entre nous, monsieur.
La recette pour faire ce que la masse appelle un grand homme est facile à donner. Quelles que soient les circonstances, procurez-lui quelque chose qui lui soit très agréable, ou seulement mettez-lui dans la tête que ceci ou cela lui serait très agréable, et puis donnez-le lui. Mais à aucun prix tout de suite. Conquérez-le par de grands efforts, ou feignez de le conquérir. Il faut que le vulgaire ait l'impression qu'il y a là une force de volonté puissante, voire indomptable. Pour le moins, il faut qu'elle paraisse exister. Au reste, que cet homme ait toutes les qualités de la masse. Au moins, celle-ci rougira devant lui, plus il sera populaire. Ainsi qu'il soit violent, envieux, exploiteur, intrigant, flatteur, rampant, bouffi d'orgueil, le tout selon les circonstances. Alors Benito Pellegrin, on a entendu tour à tour l'aphorisme 126 de la deuxième partie sur les figures du succès. C'est un extrait de l'oracle Manuel et Art de la Prudence, donc toujours de Baltasar Gracián, interprété par Jean-Louis Jacopin.
Très bien, je le remercie.
Merci à vous de le souligner. Et juste après, on a entendu un extrait du film de Patrice Lecomte, Ridicule, où les mots d'esprit, les jeux de mots sont tout autant de moyens d'asservir l'autre. Et enfin, j'ai lu un texte de Nietzsche, c'est le paragraphe 460 du chapitre 8 de Humain, trop humain. Et il y a un véritable parallèle à faire entre Gracián et Nietzsche, Nietzsche, grand lecteur de Gracián, notamment sur cette manière dont l'art du discours est aussi une manière d'apparaître aux autres et d'asservir l'autre, sinon peut-être de l'amadouer, de le séduire.
Que dire encore une fois ? Oui, la parole, je dirais, capiteuse, qui plaît, qui fait tourner la tête, et la parole aussi captieuse. Et là, justement, il y a toute la stratégie verbale. Gracián, dans son traité, qui est fondamental, art et figure de l'esprit, où c'est le premier traité sur le mot d'esprit, qui anticipe de très loin celui de Freud. Gracián dit qu'il faut user de mots à deux lumières, de mots à deux tranchants, qu'il faut discourir sur deux versants. C'est-à-dire, c'est une théorie de l'ambiguïté qui va jusqu'à l'amphibologie. Alors, il donne un exemple que j'essaie de traduire si ma mémoire ne me trahit pas. Si vous écoutez ceci, tuer le roi n'est pas affaire à faire. Ainsi, être le couteau. Ainsi, j'assigne le couteau à qui le tuera et je signe. Si je signe cet écrit, vous pouvez comprendre que affaire à ne pas faire, ça peut faire, c'est une affaire qu'il ne faut pas faire. Mais on se gardera de signer cela. On le susurre à l'oreille. Alors, tuer le roi, ce n'est pas affaire à faire. Ainsi, j'assigne le couteau, donc je donne le couteau ou j'arme la main du régicide qui le tuera et je signe. Mais je n'ai pas signé en réalité, ça n'est que la parole et on peut, c'est indécidable comme dirait Derrida, si c'est un conseil ou un interdit. Voilà. Alors, quand ce que vous avez lu sur justement l'aphorisme 126, et si tu es lubrique, ne soit pas rubrique en espagnol, sino eres casto.
C'est votre traduction, hein, Benito Pellegrin.
Sino eres casto, c'est cauto. Le S se fricatise, se palatise en U, et un phonème change, et le sens bascule, et c'est pour ça que j'ai dit, si tu es lubrique, ne sois pas rubrique, c'est-à-dire que il y a le L, qui est une vibrante simple, qui passe au R, qui est une vibrante double, et le mot, bascule, et le sens bascule, c'est-à-dire qu'il y a aussi des masques dans les mots. Et bien sûr, c'est ce que vous avez dit, le discours, la rhétorique, mais c'est merveilleux la rhétorique, parce que ça suppose aussi une démocratie. Dans une monarchie, une dictature, le discours du tyran, du maître, on n'exige que le silence de terreur, parce qu'il fait peur, ou l'applaudissement courtisan par la flatterie. La rhétorique, c'est-à-dire qui n'est quand même dans les prétoires, le pour et le contre, suppose qu'on laisse tout de même une liberté à l'autre. Bon, il y a toujours la limite avec la sophistique, avec les sophistes, pour l'amener à soi. Et c'est ça la séduction, c'est ducere, c'est amener à soi quelqu'un en lui laissant la liberté qu'il y va de son propre chef. Librement. Non, tout est évidemment dans le discours. Et évidemment, Nietzsche ne s'y trompe pas. Et d'ailleurs, Gracian dit à pratiquement le mot humain, trop humain, la phrase. Puisqu'il dit, il conseille, il ne faut pas céder trop à la familiarité, car on laisse un grand homme, on laisse de le tenir pour divin lorsqu'il devient humain, trop humain, dit Gracian. Donc, ça Nietzsche, bien sûr. Finalement, j'adore aussi, hein, puisque j'avais commencé à travailler mon doctorat sur Nietzsche et Gracian.
La manière en fait dont écrit Gracian, mais dont il se donne aussi à lire, en fait, est déjà un exercice en soi. En fait, c'est déjà une manière, si je vous suis bien, Benito Pellegrin, de commencer à devenir ce grand homme, de devenir un héros, de devenir un honnête homme.
Exactement. Encore une fois, j'ai du mal à être dans la contradiction, puisque je souscris à tout ce que vous dites, puisque vous le lisez parfaitement. Et justement, le problème, vous disiez à Molo de la Housset, c'est quand il a traduit, en pillant les traductions italiennes, il a voulu clarifier. Je veux, il dit dans la préface, montrer que Gracian est compréhensible. Même si cet auteur ne se comprend pas toujours lui-même, vous voyez. Donc, il purge de tout ce qui est compliqué, des métaphores, des rimes, et ne passons pas contre sens. D'ailleurs, Schopenhauer, qui avait traduit le Handorak, l'oracle manuel, était indigné de la traduction d'Amelot. On peut comparer les deux et on voit que ça n'a aucun rapport. Et, Gracian assigne l'écriture. Comme dit Nietzsche, c'est le premier écran qui demande un lecteur actif, pas un lecteur passif, qui doit engager aussi le travail, sa volonté. Et c'est sûr que c'est une espèce d'assaise.
Mais comment bien lire Gracian ? C'est-à-dire que si cette vérité ne se donne qu'à travers le masque des mots, ne se fait entendre qu'à travers ces faux-semblants, ces jeux de mots, l'ironie, les sous-entendus, la ponctuation, une manière des citations à l'infini, comment le lecteur peut-il avoir accès à ce message, à cette vérité qui serait cryptée ? Comment est-il sûr de ne pas se tromper ? Est-ce qu'il doit faire intervenir une forme d'interprétation ? Il n'y aurait pas qu'une seule vérité ou alors différentes manière de l'interpréter? Est-ce qu'il aurait différentes vérités? Quel est ce message que délivre Graciane et comment y accéder?
Le message
s'il y a un
clair
message
dans ses arcanes, c'est-à-dire que le lecteur engage aussi son discernement, encore une fois le discernement jésuitique, et sa responsabilité. C'est à lui de faire le chemin, d'aller à la rencontre, et ne pas d'attendre. C'est l'inverse de tout ce qu'on attend aujourd'hui, une espèce de bouillie prétendument littéraire qu'on vous assène, ou la musique qui remplit les oreilles. La musique aussi, je suis musicien, il faut aller la chercher. Il ne faut pas simplement la recevoir. Ce qui vous arrive de façon trop effusive crée une espèce de confusion. Tandis qu'il faut faire le chemin. Il faut faire le chemin. C'est un cheminement. Ça relève de la morale jésuitique finalement. Ce Dieu, c'est un Dieu généreux, un Dieu qui donne la même grâce à chacun, mais à chacun de faire de cette petite étincelle de la grâce. De faire la grâce efficace, enfin on pourrait parler des jansénistes, la grâce suffisante, tout le monde a en lui ce pouvoir, mais comment on constate que certains se perdent, d'autres le font fructifier et font de cette petite étincelle une petite flamme et un brasier, une lumière qui les illumine. C'est que chacun engage sa volonté, son travail, et à la liberté de choix correspond évidemment la responsabilité.
Que le héros s'applique à rendre son fond incompréhensible. Voici la première règle dans l'art des entendus. Mesurer le terrain avec son artifice. Grande ruse que de s'offrir à la connaissance, mais non à la compréhension. Que de nourrir l'attente sans la rassasier jamais complètement. Que le beaucoup promette davantage et que la plus belle action en laisse toujours espérer de plus grande. Que l'homme averti ne permette à personne de lui sonder le fond s'il veut être respecté de tous. Un fleuve est formidable tant qu'on ne lui a pas trouvé de gué, et l'on respecte un homme tant qu'on n'a pas trouvé de limite à sa capacité, car une profondeur ignorée mais présumée conserve toujours, par la crainte, le crédit. C'est à juste titre que l'on appelle conquête la découverte, car réussir à découvrir fait aussitôt un maître de l'esclave. Si celui qui comprend domine, celui qui se scelle ne cède jamais. Ce sont à tout d'être infini que de monter très haut la mise avec des réserves d'infinité. Cette première règle de grandeur conseille, sinon d'être infini, du moins de le paraître, ce qui n'est pas une subtilité commune. La partie vaut mieux que le tout, car une moitié sur table et l'autre en réserve est plus qu'un tout déclaré. Ô toi, candidat à la gloire, toi qui aspires à la grandeur, écoute bien le conseil. Que tous te connaissent, que personne ne te comprenne, car par cette ruse, le peu paraîtra beaucoup, le beaucoup infini, et l'infini bien plus.
Benito Pellegrin, on est revenu au héros, un extrait avec lequel on avait commencé ce début d'émission. Là, c'est le principe premier. Et il y a cette phrase très intéressante où Graciane dit « Par cette ruse, le peu paraîtra beaucoup, le beaucoup infini et l'infini bien plus ». On y entend Dieu, que vous avez commencé à évoquer, cet infini. Il y a comme une prétention derrière ces mots de Graciane à dire à l'homme « Tu peux te rendre semblable à Dieu ».
Je suis vraiment, je vous le répète, je suis vraiment heureux de... Vous disiez c'est difficile à lire, mais c'est votre lecture. Non. Là, c'est absolument quelque chose qui souvent passe inaperçu, malheureusement. Et je suis heureux que vous l'ayez remarqué. Il dit, dans la note au lecteur du héros, justement, de ce livre-ci, il dit aussi « je te donne des conseils pour faire de toi un roi ». Non, par essence, quelque chose comme ça, mais par tes qualités, non par nature, mais par tes qualités, ce qui est un avantage. Donc, quand je dis aussi un peu, c'est pas rapide, mais que c'est ça s'adresse au gouverneur, au gouvernant, au prince, ce héros, mais tout de même aussi, chacun peut être son propre héros, puisque c'est pas un roi par nature, mais par le travail, par l'acquisition. Et aussi, lorsqu'il dit dans ce même, dans le héros, Socrate répond, quel est l'homme qui ressemble le plus à Dieu? Celui qui ne dépend de personne, bien sûr, mais aussi, ici, on peut être un Dieu, non par essence, ce qui serait quand même... vraiment l'essence de Dieu infini, incompréhensible, etc. Par l'incompréhension, les desseins de Dieu sont impénétrables. En se rendant impénétrables, finalement, on est un Dieu. Non, bien sûr, par essence, non, par nature, s'il y a une nature de Dieu, inconnaissable, mais un Dieu par ressemblance. Rien de moins. Et c'est quand même énorme.
Comment peut-on ressembler à Dieu ?
Bon, écoutez, je le suis mal placé pour vous le dire.
Mais Gratian donne-t-il la réponse?
Gratian, écoutez, je ne peux pas répondre pour lui non plus.
Mais alors, comment comprendre cette espèce de complexité des mots, de complexité de présentation, en fait, de se montrer, de jeu sur les apparences, avec cette forme finalement, ce but si simple que là, d'ailleurs on n'a pas, que d'ailleurs nous-mêmes nous travestissons en faisant de Gratian un cynique, quelqu'un d'amoral. Comment comprendre en fait que finalement peut-être que la portée de ses propos soit si simple, à savoir en fait, il ne vise qu'à nourrir une forme de foi en Dieu, qu'à perfectionner l'homme. Est-ce que le but de Gratian est si simple que ça?
Simple, certainement pas. Disons que dans ces traités, la transcendance religieuse est évacuée. Là, c'est nous qui glosons, c'est notre droit et notre même devoir d'interroger le texte. Mais ça se passe ici-bas. Mais dans l'oracle manuel, qui est devenu cette démocratisation de la morale, disons, pour simplifier, la morale aristocratique mise à la portée de chacun, qui, pour autant qu'il veuille réussir dans ce monde-ci, termine tout de même sur un aphorisme 300, le dernier, qui dit, en un mot, après vous avez dit machiavélique et cynique, en un mot saint, qui est tout dur en un seul mot. Alors on croit rêver quand on arrive à cet aphorisme, le dernier. Mais peut-être, alors là je vous dis, il ne faut pas abuser non plus, même si on est un exégète de Gratian, il ne faut pas exagérer, on ne peut pas faire dire au texte n'importe quoi, mais arriver ici, ça pose une question, arriver à cet aphorisme, saint.
Saint, S-A-I-N-T.
S-A-I-N-T, oui, trois S font un homme heureux, saint, saint aussi de corps, etc. C'est que, dans ce cheminement, cet art et figure du succès ici-bas, conseille-t-il ou démontre sûrement les moyens machiavéliques, cyniques de la réussite. Mais est-ce qu'il les démontre pour nous engager à le faire ou il les dénonce? Il déboussole peut-être la statue du grand homme. Arrivé là, c'est comme si le carriériste dans la carrière, c'est la course tout de même, arrive contre mur, avec sa toute allure, avec sa voiture, avec n'importe quoi, et le mur du son, et le mur du saint, qui pose la question, faut-il relire l'oracle manuel à l'envers? Alors, exhorte-t-il, conseille-t-il, ou dissuade-t-il? Non, encore une fois, à chacun sa liberté, et à sa liberté de choisir ceci ou cela, sa responsabilité.
Merci beaucoup Benito Pellegrin. Merci. Je rappelle que l'on peut lire donc les œuvres de Gracian dans votre traduction et votre présentation aux éditions du Seuil. Donc on y trouve Le Héros, L'Honnête Homme, Oracle Manuel et Art de Prudence, Art et Figure de l'Esprit dont on a parlé durant toute cette émission. Et puis je signale aussi une autobiographie, Marseille Car Nord, c'est sur les quartiers nord de Marseille. C'était aux éditions Sulliver et l'appel est lancé pour que ce soit publié à nouveau. Et puis aussi, vous avez adapté en français et présenté Benito Pellegrin, La vie est un songe de Calderon. C'est disponible aux éditions Autre Temps.